Credo. Une exploration des fondamentaux de la foi chrétienne avec Monseigneur Battu, évêque auxiliaire de Toulouse.
Il a pris chair, il s'est fait homme. Après avoir dit qui est Jésus notre Seigneur et établi sa condition divine, sa consubstantialité avec le Père, le texte du symbole de Nicée continue en parlant non plus de ce qu'il est, mais de ce qu'il a fait en venant dans le monde. Le texte grec dit « À cause de nous, les hommes, et à cause de notre salut, il est descendu et s'est incarné, s'est fait homme. » Et le texte latin dit à peu près la même chose « À cause de notre salut, il est descendu et s'est incarné, s'est fait homme. » Nous avons affaire à un récit. Le récit de l'itinéraire du Fils de Dieu dans le monde. Et ce récit est d'un seul tenant, même si la traduction française l'a morcelé en plusieurs phrases. On pourrait dire que c'est le récit d'un voyage aller et retour, qui part du Père et qui retourne au Père. On perçoit la signification de ce voyage au début du chapitre 13 de l'Évangile de Saint Jean, quand Jésus réunit autour de lui ses disciples pour le dernier repas. Saint Jean nous dit « Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, dépose ses vêtements et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. » Vous avez reconnu l'introduction du lavement des pieds. Le symbolisme de ce geste incroyable d'humilité de la part de Jésus est très important, car il souligne que celui qui est venu seul du plus haut, d'auprès du Père, ne veut pas y retourner seul comme il en est venu. Il vient nous chercher au plus bas, en s'abaissant plus bas que nous, pour nous élever avec lui jusqu'à Dieu. C'est pourquoi quand Pierre se rebelle et ne veut pas le laisser lui laver les pieds, Jésus lui dit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Jean 13, 8. Pour nous comme pour Pierre, il ne s'agit pas d'abord de faire quelque chose, mais de laisser Jésus s'abaisser devant nous, d'accepter qu'il fasse ainsi jusqu'au bout ce qu'il est venu faire pour nous sauver. Et justement, le récit du Credo s'ouvre par les mots « à cause de nous et à cause de notre salut ». Ces paroles éclairent tout ce que Jésus a fait pendant son séjour sur la terre. Tout, absolument tout, a été fait à cause de nous, par amour pour nous. Et tout, absolument tout, était en vue de notre salut. Une des préfaces de la messe dominicale l'exprime en toute clarté, je cite « Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. » Fin de citation. Le texte de Nicée n'explicite pas les mots « salut » et « sauveur ». Ceux qui récitent le credo sont supposés les comprendre, car ce sont des maîtres mots de l'Écriture. Marie dit dans son Magnificat « Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur ». Les Samaritains en Saint Jean disent de Jésus « Nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde » Jean 4, 42. Les apôtres, début des Actes, affirment que Dieu a fait de lui le chef et le Sauveur, Actes 5, 31. On pourrait multiplier les exemples. Mais être sauvé, c'est quoi? Être sauvé, c'est finalement parvenir à notre accomplissement, à notre plénitude, en étant arraché à tout ce qui nous en empêche. Et il est clair que Dieu seul est en mesure de réaliser une pareille libération. En effet, la foi biblique nous enseigne que le mal n'est pas extérieur à nous, mais que c'est le cœur de l'homme qui est perverti. « Je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère », dit le psaume 50 attribué à David. Mais ce constat débouche dans une supplication confiante. « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit, rends-moi la joie d'être sauvé. » Psaume 50, versets 12-14. La joie d'être sauvé nous est rendue par la venue de Dieu jusqu'à nous. Comme le Samaritain de la parabole en Luc 10, il a été remué jusqu'aux entrailles devant l'humanité blessée. Il s'est approché, il a soigné ses blessures, il l'a chargé sur ses épaules et il l'a confié à l'auberge qui est l'Église, afin qu'elle prenne soin de lui jusqu'à son retour. À la racine de ce salut, il y a ce fait inouï. En son Fils, Dieu s'est fait homme. Il n'a pas voulu nous sauver de l'extérieur, mais de l'intérieur de notre condition humaine, en la faisant sienne de bout en bout. Et comme dans la Bible, la faiblesse et la fragilité humaine sont synthétisées dans le mot « chair », le Concile ne se contente pas de dire que le Fils de Dieu s'est fait homme, il insiste sur le paradoxe en disant aussi « il s'est incarné », c'est-à-dire « il s'est fait chair ». Le Verbe s'est fait chair, affirmait saint Jean dans son prologue. Ce n'est pas un détail anecdotique, c'est le propre de notre foi. La foi en l'incarnation véritable du Fils de Dieu est le signe distinctif de la foi chrétienne, lisons-nous dans le catéchisme de l'Église catholique. Remarquons aussi la sobriété extrême du langage de Nicée. Il est descendu et il s'est incarné, s'est fait homme. Il n'est question ni de la Vierge Marie, ni du rôle de l'Esprit-Saint qui seront ajoutés par la suite. Nous avons seulement ces trois verbes, descendre, s'incarner, se faire homme. Le Très-Haut s'est fait le Très-Bas pour nous élever jusqu'à lui. Si l'on accepte le premier concile de Constantinople en 381, qui a traité la question de la divinité du Saint-Esprit, tous les conciles écuméniques de l'Église indivise, c'est-à-dire antérieurs au schisme entre l'Orient et l'Occident, se sont réunis pour réagir à des remises en question du mystère de l'incarnation. Tantôt, on cherchera à réduire le scandale d'un Dieu qui s'abaisse, et il faudra pour y répondre le concile d'Éphèse en 431. Tantôt, on cherchera à dissoudre l'humain dans le divin, et il faudra pour y répondre le concile de Chalcédoine en 451. Mais toutes ces crises sur l'identité du Christ seront finalement des révoltes de la raison devant l'affirmation centrale de Nicée, le Verbe qui a partagé notre condition humaine, vécu notre vie et subi notre mort, n'est pas une créature ou un sous-Dieu, mais il est Dieu lui-même qui a tout assumé de ce que nous sommes pour nous donner part à tout ce qu'il est. J'ajoute un mot à propos de l'idée que les Ariens se faisaient du Christ. Pour eux, nous l'avons vu, il n'était pas vraiment Dieu. Mais il n'était pas non plus vraiment homme. Les Ariens savaient qu'un être humain est composé à la fois d'une âme et d'un corps. Et ils reprenaient la définition classique de la mort. La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Lorsque nous mourons, l'âme qui est immortelle n'anime plus le corps, et le corps n'est plus qu'un cadavre qui va se décomposer et finir par disparaître. Ce qui se passe pour nous, c'est aussi passé pour le Christ. Quand il est mort sur la croix, son âme a quitté son corps. Mais, avec cette grande différence, qu'entre la mort et la résurrection, son corps très saint n'a pas connu la corruption dans le tombeau. Tout cela, les Ariens le savaient, mais ils disaient « Inutile de dire que le Christ a une âme. Quand le Verbe s'est fait chair, il est simplement venu habiter un corps humain et il lui a tenu lieu d'âme. » Pour les Ariens, le Christ n'était donc pas un homme comme nous, avec une âme et un corps. C'était le Verbe, lui-même inférieur à Dieu, qui habitait dans un corps, un peu comme on revêt un costume pour jouer un rôle dans une pièce de théâtre. En définitive, le Christ n'était donc ni Dieu ni homme. Et lorsque ce faux homme mourait sur la croix, eh bien ce n'était pas son âme qui se séparait de son corps, c'était le Verbe de Dieu qui quittait l'enveloppe corporelle qu'il avait prise pendant quelques années pour la retrouver ensuite le jour de Pâques. En définitive, le Fils de Dieu n'était ni vraiment devenu homme, ni vraiment mort, ni vraiment ressuscité. Et Dieu lui-même, enfermé dans sa transcendance inaccessible, ne se communiquait jamais à notre humanité, tout n'avait eu lieu qu'en apparence. Un des premiers écrivains chrétiens, né aux alentours de la mort et de la résurrection de Jésus, et mort martyr à Rome, saint Ignace d'Antioche, avait déjà mis en garde plus de deux siècles auparavant contre ses tentations de réduire les mystères centraux de notre foi à de pures apparences. Je cite pour conclure ce qu'il écrivait à des chrétiens d'Asie mineure pendant qu'on l'emmenait en captivité à Rome. Restez donc sourds quand on vous parle d'autre chose que de Jésus-Christ, de la race de David, né de Marie, qui est véritablement né, qui a mangé et qui a bu, qui a été véritablement persécuté sous Ponce Pilate, qui a été véritablement crucifié et qui est mort au regard du ciel, de la terre et des enfers, qui est aussi véritablement ressuscité d'entre les morts. C'est son Père qui l'a ressuscité, et c'est lui aussi le Père qui, à sa ressemblance, nous ressuscitera en Jésus-Christ, nous qui croyons en lui, en dehors de qui nous n'avons pas la vie véritable. Aujourd'hui, comme au premier temps de l'Église, c'est par la foi au Fils de Dieu, né selon la chair de la race de David et de la Vierge Marie, mort et ressuscité pour nous, que nous avons la vie véritable.